désirer les adversaires parfaits. On ne saurait contester aux Français qu'ils ont été le peuple le plus chrétien de la terre. Non point qu'en France la dévotion des masses ait été plus grande qu'ailleurs, mais les formes les plus difficiles à réaliser de l'idéal chrétien s'y sont incarnées en des hommes et n'y sont point demeurées à l'état de conception, d'intention, d'ébauche imparfaite. Voici Pascal, dans l'union de la ferveur, de l'esprit et de la loyauté, le plus grand de tous les chrétiens, et que l'on songe à tout ce qu'il s'agissait d'allier ici. Voici Fénelon, l'expression la plus parfaite et la plus séduisante de la culture chrétienne sous toutes ses formes. Un moyen terme sublime dont, comme historien, on serait tenté de démontrer l'impossibilité, tandis qu'en réalité il ne fut qu'une perfection d'une difficulté et d'une invraisemblance infinie. Voici Madame de Guyon, parmi ses semblables, les quiétistes français. Et tout ce que l'éloquence et l'ardeur de l'apôtre Paul a essayé de deviner au sujet de l'état de semi-divinité du chrétien, l'état le plus sublime, le plus aimant, le plus silencieux, le plus extasié, s'est ici fait vérité en se dépouillant de cette opportunité juive dont saint Paul fait preuve à l'endroit de Dieu, en la rejetant grâce à une naïveté de la parole et du geste, naïveté vraiment toute féminine, subtile et distinguée, et toute française des temps jadis. Voici le fondateur de l'ordre des Trappistes, le dernier qui ait pris au sérieux l'idéal ascétique du christianisme, non pas qu'il fût une exception parmi les Français, mais au contraire en vrai Français. Car jusqu'à présent, sa sombre création ne put s'acclimater et prospérer que chez les Français. Elle les a suivis en Alsace et en Algérie. N'oublions pas les Huguenots. Depuis eux, il n'y a pas encore eu de plus bel alliage d'esprit guerrier et d'amour du travail, de mœurs raffinées et de rigueur chrétienne. Voici encore Port-Royal, où l'on assiste à la dernière floraison de la haute érudition chrétienne. Et pour ce qui est de la floraison, en France les grands hommes s'y entendent mieux qu'ailleurs. Loin d'être superficiel, un grand Français n'en a pas moins sa superficie, une enveloppe naturelle qui entoure son fond et sa profondeur. Tandis que la profondeur d'un grand Allemand est généralement tenue renfermée dans une fiole, étrangement contournée, comme un élixir qui cherche à se garantir par son enveloppe dure et singulière de la clarté du jour et des mains étourdies. Et que l'on devine après cela pourquoi ce peuple, qui possède les types les plus accomplis de la chrétienté, engendra nécessairement aussi les types contraires les plus accomplis de la libre pensée antichrétienne. Le libertaire français a dans son fort intérieur toujours livré bataille à de vrais grands hommes, et non pas seulement à des dogmes mais à de sublimes avortons, comme les libertins et les autres peuples. Esprit et morale. L'Allemand qui possède le secret d'être ennuyeux avec de l'esprit, du savoir et du sentiment, et qui s'est habitué à considérer l'ennui comme moral, l'Allemand éprouve devant l'esprit français la peur que celui-ci n'arrache les yeux à la morale. Et cette peur est semblable pourtant à la crainte et à la joie du petit oiseau devant le serpent à sonnette. Parmi les Allemands célèbres, nul n'a peut-être eu plus d'esprit qu'Hegel. Mais il y avait de plus une si grosse peur allemande en face de l'esprit que cette peur a créé un style particulièrement défectueux. Le propre de ce mauvais style, c'est d'envelopper un noyau, de l'envelopper encore et toujours jusqu'à ce qu'il transperce à peine, hasardant un regard honteux et curieux. Comme le regard d'une jeune femme à travers son voile, pour parler avec Eschyle, ce vieil ennemi des femmes. Mais ce noyau est une saillie spirituelle, souvent impertinente, sur un sujet des plus intellectuels, une combinaison de mots, subtils et osés, tels qu'il en faut dans une société de penseurs, comme hors d'œuvre de la science. Mais présenté dans ce fouillis, c'est la science intruse elle-même et le plus complet ennui moral. Les Allemands trouvèrent là une forme permise de l'esprit, et ils en jouirent avec un ravissement si manifeste que l'excellente raison de Schopenhauer en fut stupéfait d'étonnement. Durant toute sa vie, il tonna contre le spectacle que lui offraient les Allemands, mais il ne sut jamais se l'expliquer. Vanité des maîtres de morale. Le succès, en somme assez médiocre, que remportèrent les maîtres de morale, s'explique par le fait qu'ils voulaient trop de choses à la fois, c'est-à-dire qu'ils étaient trop ambitieux. Ils aimaient trop à donner des préceptes pour tout le monde. Mais c'est là errer dans le vague et tenir des discours aux animaux pour en faire des hommes. Quoi d'étonnant si les animaux trouvent cela ennuyeux. Il faudrait se choisir des cercles restreints, chercher et encourager la morale pour ceci, tenir par exemple des discours devant les loups pour en faire des chiens. Cependant, le grand succès reste généralement à celui qui ne veut éduquer ni tout le monde, ni des cercles restreints, mais un seul individu et qui ne regarde pas à droite et à gauche. Le siècle passé est précisément supérieur au nôtre, parce qu'il possédait tant d'hommes éduqués individuellement, ainsi que d'éducateurs dans la même proportion, qui avaient trouvé là la tâche de leur vie. Et avec la tâche aussi la dignité devant eux-mêmes et devant toute autre bonne compagnie.